Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a au cinéma Une fille facile de Rebecca Zlotowski, il y a en librairie le livre d'Yvan Jablonka sur les hommes justes, il y aura dès le début du mois prochain les livres de Caroline Emke, Quand je dis oui, d'Aurore Cochlin, La révolution féministe, celui de la philosophe américaine Carol Gilligan, Pourquoi le patriarcat, sans compter la somme très attendue de la féministe allemande Heide Göttner Abendroth sur les sociétés matriarcales que les éditions des femmes s'apprêtent à publier, et encore Femmes libres, hommes libres de l'essayiste italo-américaine Camille Paglia. Autant dire que les débats post-MeToo autour de la nouvelle vague féministe et plus généralement autour des relations hommes-femmes ne faiblissent pas cet automne. On y reviendra dans cette émission d'ici peu, mais comme nous sommes encore en pleine rentrée littéraire, on va tâcher d'aborder la question de manière moins sociologique ou politique qu'on le fait généralement, avec un livre qui, par ses qualités d'écriture, par l'angle déconcertant avec lequel le sujet est abordé et par sa franchise sauvage, tranche complètement avec le regard qui est généralement de mise dans ce domaine. Emma Becker, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une extinction de voix, donc on va essayer de parler doucement. Quelquefois dans cette émission, on reçoit un seul invité, c'est le cas aujourd'hui. On vous reçoit pour La Maison, qui est votre troisième livre. Vous avez 30 ans, vous vivez à Berlin, vous êtes née à Antony d'un père qui est chef d'entreprise, je crois.
C'est ça.
Et d'une mère qui est
psychologue.
Ouais, psychologue. Ouais. Vous avez découvert la littérature à 13 ou 14 ans, en vous plongeant dans Maupassant, dans Sade, dans Georges Bataille, et aussi dans les livres de Louis Calafert, dont on va reparler tout à l'heure. Vous avez fait quelques mois d'hypocagne au lycée Lamartine.
Oui.
Vous avez fait quelques mois de psycho à la fac. Vous avez quelques études de pub aussi, je crois.
Vous êtes bien renseigné, oui, oui.
Vous avez publié deux livres. Le premier en 2011 chez De Noël qui s'appelait Monsieur, inspiré d'une histoire d'amour, une passion amoureuse que vous avez vécue à 20 ans. Et sous le pseudonyme, c'est un pseudonyme, Emma Becker, en tout cas Becker, c'est le diminutif de Penn Becker, qui était le nom de jeune fille de votre grand-mère, c'est ça?
Voilà.
Voilà. Vous avez publié un second livre, Alice, en 2015, qui est encore un roman d'initiation, mais aussi un roman sur la famille. Et cet automne, donc, La Maison, quelque chose de tout à fait différent, puisque le livre raconte sur 400 pages votre expérience de prostituée dans deux bordels de Berlin, expérience choisie par vous, vous l'expliquez dans le livre, dans le but d'écrire ce livre. Et c'est un livre qui se présente à la fois comme un reportage et comme une sorte d'autoportrait, une enquête littéraire sur les femmes, sur les rapports entre les hommes et les femmes, et enfin une enquête sur vous comme femme, on peut dire ça.
Oui.
Alors d'abord, avant toute autre question, pourquoi prendre la prostitution comme terrain pour explorer les rapports hommes-femmes et pour explorer les femmes ?
Parce que il me semble que les prostituées représentent quand même une... Le rapport entre les hommes et les femmes est intéressant à explorer aussi dans cette perspective, puisque la femme, en tant que prostituée, est réduite à son plus simple appareil, à sa fonction qui est évoluée par l'homme depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire une fonction de plaisir, une fonction reproductrice. Et d'être comme ça, volontairement, de me mettre dans cette condition très schématique, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, de ce que ça disait sur les femmes et sur les hommes.
Ça vous a demandé du courage au départ ou c'est venu naturellement?
Non, peut-être de la bravade, mais non, j'étais tellement fascinée, j'étais tellement intriguée, j'avais tellement envie de mettre les pieds dans cet endroit-là que je ne l'ai pas du tout conçu comme une forme de courage. Non, j'avais vraiment envie d'écrire. Et c'est ça qui m'a aidé à pousser la porte aussi.
Le livre est placé sous l'égide de Louis Calafert. Il faut rappeler que Louis Calafert était un écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle, dont le principal chef-d'œuvre Septentrion, qui a été écrit en 6 semaines en 62, a été interdit en France pendant 20 ans officiellement pour raison de pornographie. Mais le livre est aussi une étude des rapports sociaux. C'est un mélange de textes effectivement érotiques et une étude sur le sexe, mais aussi une étude des rapports de pouvoir à l'intérieur du sexe. Vous avez mis un extrait de Calafate dans le livre, vous le citez plusieurs fois, c'est un écrivain qui est important pour vous?
Extrêmement important. J'ai découvert Calafate quand j'avais 14 ans, comme ça par hasard, je suis tombée sur les mécaniques des femmes. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc parce que les mécaniques des femmes, il est un peu occulte, enfin il faut savoir comment rentrer dedans et de quelle femme Louis Calafate parle. En fait, cette première curiosité que j'ai eue pour les prostituées est sans doute due à la mécanique des femmes, parce que on sait jamais dans ce livre s'il parle de femmes, s'il parle de prostituées, s'il parle peut-être des deux. Et Septentrion, je trouvais qu'il avait une audace folle et un courage absolument grandiose pour parler aussi de pauvreté et de misère comme ça, de la manière dont finalement il s'acoquine avec une femme riche qui l'entretient et il s'aperçoit que son pouvoir d'écriture est complètement réduit à peau de chagrin, comme un espèce de gros chat qui a trop mangé pour chasser les souris. Et je trouve que Calafate a vraiment un verbe splendide. Et pour moi, bon, c'est un peu notre Henry Miller français, mais je trouve qu'il a plus de puissance encore et plus d'impudeur et il est sans concession.
Oui, il est sans concession.
Oui.
Vous dites à un moment donné dans le livre, je retrouve pas la citation là, que les femmes ont pratiquement, contrairement aux hommes, les femmes ont pratiquement un problème d'identité intrinsèque à leur sexe. Il y a quelque chose comme ça que vous dites à un moment donné dans
c'est
le
vrai.
Livre. Parce que leur sexe est plus complexe, elles ont plus de difficultés à se définir, c'est plus compliqué
J'imagine, enfin moi c'est comme ça que je le vis depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire que c'est vrai que je dis au début du livre que j'ai l'impression d'être piégée entre la femme et l'homme. En fait, voilà, maintenant que j'ai écrit ce livre, je me rends compte que je ne suis absolument pas piégée entre la femme et l'homme, ou alors peut-être, mais dont ces interrogations sont selon moi très féminines. Et cette part de masculinité est quelque chose qui n'empêche absolument pas d'être femme. Mais je pense qu'on est, en tant que nana, tellement soumise à des injonctions. Depuis le début de notre vie, des injonctions à paraître, à sourire, à faire en sorte que la maison soit bien tenue. On est soumise à des injonctions qui nous amènent beaucoup plus à nous questionner après sur ce qu'on est vraiment au-delà de ces rôles qu'on est censé remplir. Je pense que les hommes ont d'autres problèmes d'identité, mais c'est définitivement pas les mêmes. C'est-à-dire que vraiment, en tant que femme, il faut trouver sa place en tant qu'individu qui n'a pas de fonction. D'individu au-delà des fonctions reproductrices, au-delà des fonctions de plaisir, au-delà des fonctions de service, se définir en tant qu'être pensant pour soi. Et effectivement, le côté sexuel est très complexe.
Oui.
Le sexe de la femme, déjà, est d'une complexité absolument par rapport à celui de l'homme. Et on se bat aussi avec ça, nous. On parle peu du sexe de la femme. Et dans quels termes, et comment, et qui on parle? Qui en a parlé, sinon les hommes, depuis le début des temps? Donc je pense que oui, le fait d'être une femme est une aventure qui vous tient en haleine jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça que je trouve magnifique aussi.
Alors, le livre commence par une odeur. Vous décrivez en train de chercher une couverture pour votre enfant.
Oui.
Et vous tombez par hasard sur un sud-lit de 3 mètres sur 3 acheté pour 5 euros quand la maison, qui est la maison close dans laquelle vous avez travaillé à Berlin, a fermé. Et vous retrouvez ce sud-lit au fond de cette armoire et l'odeur vous ramène, c'est l'odeur, c'est vraiment la Marianne de Proust, c'est l'odeur qui va vous amener vers les souvenirs qui sont en fait le récit de ce livre, qui alterne des parties sur vos collègues, qui sont comme des petites nouvelles. En soi, presque, et une sorte de journal de vous. Il y a un peu d'autofiction, il y a un peu de reportage, et il y a beaucoup de réflexion. Ce qui frappe tout de suite, c'est le refus complet de toute victimisation. C'est-à-dire que, de toute façon, vous avez choisi de faire ça, de ce rôle de prostituée pendant 2 ans et demi, donc la question de la victimisation ne se pose pas. Vous y travaillez, vous vous décrivez travaillant dans deux établissements différents. D'abord le manège qui est tenu par des hommes, et puis ensuite là, une maison qui est la maison qui va être tenue par une Hausdame. Et même au moment d'une espèce de crise de parano dans la première maison close tenue par les hommes, quand vous avez peur qu'on vous empêche de partir, vous vous décrivez ne paniquant pas du tout. Il y a une sorte de froideur, enfin de calme en tout cas.
Disons que voilà, je me protège aussi beaucoup. Enfin, mon statut d'écrivain, moi, c'est quelque chose derrière lequel je me cache aussi beaucoup, dans lequel je me protège. J'ai tendance à me dire que même si cet endroit, le manège, est absolument abominable, moi, je vais en sortir parce que je suis écrivain et aussi parce que je suis française et que je suis pas, j'ai pas du tout le même statut que les filles qui travaillent là et qui habitent aussi à demeure et dont on sent bien qu'elles n'ont pas énormément de choix, même si c'est légal. J'ai, comme je disais, une espèce de forme de fronde. Enfin, disons, je me lance là-dedans et je vois pas l'intérêt d'avoir peur puisque ça n'évite pas le danger. Mais c'est vrai que si j'étais restée au manège, la victimisation serait devenue indispensable. Même moi, je me sentais pas du tout en sécurité pour que moi, je reparte chez moi pendant 15 jours en me disant un jour, je vais me retrouver dans le coffre d'une bagnole et on sera en train de filer vers l'Albanie. Voilà, j'y pensais constamment quand même. J'avais l'impression d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, ouais.
Alors, dans un deuxième temps, vous trouvez une maison tenue par une femme, et il y a cette fascination presque mythique pour la prostituée et pour la femme chez vous. Vous dites au début du livre, si je n'étais pas quand vous croisez avant de devenir prostituée, vous croisez des prostituées à Berlin sur le trottoir, et vous dites, si je n'étais pas d'une telle timidité dès lors qu'il s'agit de femmes, je me verrais bien les saluer comme je le fais avec chaque commerçant du quartier. Vous dites, voilà des femmes qui sont vraiment des femmes, qui ne sont vraiment que ça.
Mais parce que ça répond.
C'est pas l'habitude, c'est pas ce qu'on voit d'habitude, enfin, c'est pas l'image qu'on se fait des prostituées en général.
Bah, pourtant, une prostituée, c'est qu'une femme, c'est tout ce qu'on lui demande d'être, c'est simplement ça, son sexe. Et c'est vrai que j'étais à la fois fascinée et terrifiée par ce qu'elle représentait de puissance, quoi, c'est-à-dire de les voir comme ça, en pleine rue, splendide, même pas au sens littéral du terme, mais splendide par par l'évidence avec laquelle elles se tiennent là, sanglées dans leur corset, objectivement faites pour être louées par des hommes, et cette espèce de paisible toute puissance, moi, me terrifiait, et c'est vrai que ce besoin d'entrer dans une maison close était aussi pour moi le besoin de les remettre, de les enlever du piédestal sur lequel je les avais mises, parce que toute cette littérature qu'on a et qui est magnifique d'ailleurs en fait aussi des figures mythologiques, et j'avais envie soit de me hisser à leur niveau, soit de les rabaisser au mien. En tout cas, j'avais envie de les comprendre.
Oui, il y a une quête de féminité, ça c'est
oui.
C'est ça, de votre part. Et c'est le passage dont je parlais tout à l'heure, vous dites à un moment donné, la misère des femmes, leur sexualité tellement complexe qu'elles-mêmes souvent n'y entendent rien, parce qu'elles n'avaient pas, elles, de bites stupides pour leur indiquer la satisfaction physique. Un homme pouvait mentir sur tout, mais une femme capable de prendre sa satisfaction partout et nulle part menait une course sans fin vers le plaisir, encombrée de ses 1000 personnalités.
Oui, mais... Je trouve que le plaisir est pour nous beaucoup plus un challenge que pour les hommes. Hein. Alors c'est sans doute une illusion, mais enfin non, j'en suis pas sûre. Mais il me semble quand même que si on a assisté au spectacle d'une femme qui jouit et d'un homme qui jouit, on sent bien que l'un et l'autre n'ont rien à voir. Et qu'une femme qui jouit, c'est un abîme qui s'ouvre. Et qu'un homme qui jouit, c'est vite passé. Enfin, j'ai une certaine... pas pitié, mais enfin empathie pour les hommes, parce que je sens bien qu'on joue pas du tout au même niveau, au même niveau. Enfin, c'est-à-dire le plaisir est pour nous un renversement, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre, et que je pense que la sexualité pour une femme est un exercice qui se pratique tout au long d'une vie. On n'accède pas au plaisir de façon magique, merveilleuse, miraculeuse. Et puis voilà, on se débat aussi avec toutes ces théories fumeuses de plaisir clitoridien enfantin, plaisir vaginal adulte. Donc on sait, non seulement on ne sait pas forcément comment jouir, mais on ne sait pas forcément pour qui, pourquoi, de quelle manière. C'est-à-dire que même la jouissance pour une femme devient politique, donc c'est normal que ce soit pour nous un combat, et que ce soit d'ailleurs un combat passionnant, parce que le plaisir pour nous vient de plein de choses différentes, de plein de détails différents, ne naît pas forcément de la même chose, et que voilà, on n'est pas coincé dans notre corps, je pense, comme les hommes. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-going fear.
life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line.
Emma Becker, La Maison. Emma Becker, rebonjour. On parlait de féminité, on parlait de plaisir, on parlait de prostitution. Dans le livre, donc il y a un certain nombre de personnages, de collègues en quelque sorte, qui apparaissent. Et vous abordez la question du plaisir et du non-plaisir des femmes elles-mêmes, des prostituées elles-mêmes dans la maison. C'est une question assez complexe. L'une des prostituées, je crois que c'est dit à un moment donné, le problème avec ce métier, c'est qu'au bout d'un moment, ton corps ne sait plus quand tu fais semblant et quand tu sens vraiment quelque chose.
Oui, et puis je m'exprime aussi d'un contexte assez particulier, c'est-à-dire vraiment d'une maison close. Donc ce qui sous-entend que les journées que vous y passez, vous recevez quand même un certain nombre d'hommes. Donc je pense que dans cette manière de prostitution, il y a aussi la nécessité au bout d'un moment de construire une espèce d'indifférence professionnelle qui n'empêche pas de sentir tout. Mais disons qu'on ne peut pas être constamment présente pour tous les hommes, on ne peut pas être réceptif pour tous les hommes, parce qu'au bout d'un moment, ça rend fou, il y a un engourdissement, quoi. Mmh. Et que c'est vrai que moi, j'ai remarqué en faisant ce métier que mon désir, le désir que j'avais pour les hommes, le désir de séduction, le désir de flirt, qui est vraiment ce qui me fait me lever le matin et qui me permet de m'endormir le soir, s'émoussait. Et que ça a été mon plaisir en arrêtant cette expérience de m'apercevoir à quel point les couleurs revenaient au monde, les sons, les odeurs, à quel point je sentais tout avec une acuité qui avait été un peu endormie par nécessité quand je faisais ce travail. Mais ceci dit, je décris aussi, mais peut-être que vous alliez y venir, à quel point le désir et le plaisir peuvent naître aussi de l'indifférence la plus noire que les hommes peuvent nous inspirer. Pour la chute de pression que ça implique, c'est-à-dire pour le peu de cas qu'on fait de ce à quoi on ressemble en faisant l'amour, qui est aussi une préoccupation féminine importante, mm-hmm. qui nous bloque, enfin qui me bloque en tout cas moi beaucoup, mm-hmm. qui m'a bloqué dans mes rapports avec les hommes.
Oui, et vous décrivez à un moment donné, c'est d'ailleurs la même Ildi qui à un moment donné rencontre un homme en dehors de la maison close, en dehors du bordel, et sur les réseaux sociaux. Et immédiatement, elle conçoit pour lui, vous dites, une excitation atroce,
oui.
Ce terme très fort. Et c'est une scène sexuelle, je ne sais pas dans quelle mesure vous l'inventez, parce que c'est une scène que vous décrivez avec beaucoup de détails. Donc c'est difficile de savoir à quel moment on est dans le reportage et à quel moment on est dans l'imaginaire. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est une scène de sexe authentique avec un inconnu de la part d'une fille qui est sortie à un moment donné du bordel et qui redécouvre soudainement, non seulement qui redécouvre, mais qui découvre, puisqu'elle a le sentiment de n'avoir jamais joui de cette façon.
Oui, c'est-à-dire c'est exactement ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que les sensations reviennent avec une brutalité que je trouve magnifique, un peu comme si moi la sensation que j'ai eue, et malgré les années, enfin malgré ces 2 ans de bonheur et d'extrême jubilation à plein d'égards, j'avais quand même l'impression que mon moi sexuel, mon identité sexuelle avait été un peu tenue en cage. Je l'ai pas vécu comme un traumatisme, mais c'est quand même ça dont je me suis aperçue quand j'ai arrêté le boulot, à quel point d'un seul coup je me remettais à sentir. Et le terme d'excitation atroce est intéressant aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose d'atroce dans l'excitation, Je pense que c'est mais quelque chose de magnifique et atroce à la fois, c'est-à-dire c'est un esclavage et de se sentir d'un seul coup tellement connecté à son corps quand on a dû s'en diviser pendant 2 ans et demi, c'est une sensation qui à la fois vous étrangle et vous libère. Mmh, mmh.
Alors, dans le livre, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes, il y a les collègues. Vous décrivez des relations presque de camaraderie sexuelle entre vous et Hildy, d'ailleurs, justement. Mmh. Vous décrivez certaines des prostituées dont des clients deviennent amoureux. Il y a une histoire qui pourrait faire une nouvelle en soi, qui est une nouvelle en soi, l'histoire de Gita dont un type est amoureux et puis finalement il va chez elle parce qu'elle est malade et qu'il est médecin. Il la soigne et il lui dit, tu sais, tu n'as rien à craindre, j'oublierai ton adresse tout de suite. Et quand il lui dit ça, elle réalise qu'il est chez elle, en fait, qu'il a son adresse. Et du coup, elle disparaît. Elle disparaît du bordel et il est inconsolable.
Mais c'est un cas de figure qui s'est reproduit quand même à pas mal de reprises. Enfin, la facilité avec laquelle les hommes tombent amoureux au bordel, moi, m'a tout de suite saisie. C'est-à-dire que... j'avais l'impression que plus les hommes payaient pour ne pas tomber amoureux de ces femmes, pour vraiment les réduire à quelque chose de très physique, plus c'était facile pour eux en fait de tomber amoureux par esprit de contradiction. Et puis il faut aussi bien voir que quand un homme paye une femme dans l'espoir de pas avoir de maîtresse, donc de pas tromper sa femme, mais qu'il voit la même prostituée pendant 6 mois, en fait finalement la différence est pas...
Ça devient une liaison.
C'est une liaison, c'est-à-dire qu'une relation... est une relation et reste une relation. Et non, mais moi je trouvais ça très beau, je trouvais ça très troublant et parfois très agaçant aussi quand on travaille en tant que pute et de s'apercevoir que on n'arrive pas à se défaire de certains clients et qu'au bout d'un moment, il faudrait presque être méchante pour leur expliquer que ça n'est que du boulot. Il y a certains moments où c'est vrai que c'est un peu énervant et j'en parle aussi, mais voilà, c'est vrai que quand je revenais chez moi, je me disais mais c'est quand même incroyable que... Finalement, voilà, le fait qu'on soit des putes, c'est ce qu'ils diront à leurs femmes si un jour ils se font choper avec nous. Mais nous, pour eux, on est des femmes, on n'est jamais que des femmes. Et on...
Ils payent pour ne pas culpabiliser, quoi.
Ils payent pour ne pas culpabiliser et ils payent dans une tentative désespérée de faire des putes, juste des putes, quoi, juste un corps de femme. Mais c'est totalement illusoire.
Et alors, les hommes tiennent une certaine importance dans le livre, et c'est à mon avis un des passages, ce sont les pages les plus subversives d'une certaine manière, parce que les pires hommes que vous décrivez, il y en a deux en particulier dont on va parler, sont des hommes bons. Sont des hommes bien intentionnés dans les deux cas, d'une certaine façon.
Je vois de quoi vous parlez.
Il y en a un dont vous ne donnez pas le nom, mais sur plusieurs pages à qui vous parlez directement.
Oui.
Tout le passage est écrit au tu, vous vous adressez à lui, vous l'appelez successivement le gros lard ou le beauf. En fait, il est pas complètement anodin, parce que c'est pas anodin qu'il soit avocat français spécialiste d'immigration. Et il vient apprendre, en fait, il vient au bordel pour, dit-il, apprendre le cunnilingus au cas où il aurait une petite amie.
Oui, c'est vrai que
La scène est terrible.
C'est vrai que, voilà, en me remettant dans le contexte, c'est exactement ce que je disais, c'est toute cette question d'indifférence, c'est-à-dire que c'est plus facile de coucher avec un homme qui vous demande rien, là, qui a juste besoin de baiser avec vous, qu'avec un type qui arrive et à qui il faut apprendre des trucs, quoi, pour lequel il faut vraiment être présente, puis lui expliquer, et puis bon, voilà, en tant que femme, voilà, expliquer comment pratiquer un cunnilingus. Mon Dieu, c'est tellement, ça varie tellement selon les femmes, selon l'humeur, selon ce que vous renvoie l'homme. Enfin, c'est un rapport qui est tellement complexe aussi pour les femmes. À tellement de reprises, moi, dans ma vie, c'est quelque chose qu'on a tendance à écourter parce qu'on se dit, il a l'air de s'emmerder un peu. Là, je préférais peut-être qu'on fasse un truc tous les deux, vraiment. Et cette scène est bourrée de ce genre d'affect aussi. C'est-à-dire que, voilà, le type vient dans l'espoir de pouvoir faire plaisir à sa copine le jour où il en aura une. Mais on voit bien qu'il n'a pas du tout envie, en fait. Et l'envie des hommes, c'est la matière première avec laquelle on travaille dans un bordel. Donc, s'apercevoir que le type se force... Puis, cette histoire de France aussi, le fait qu'il soit français, c'est pas inintéressant, parce que le contexte dans lequel il arrive, le background avec lequel il arrive, c'est-à-dire l'impression de profiter d'une pauvre fille, et qu'en plus cette pauvre fille devrait l'instruire et l'enrichir sexuellement, enfin ça m'opposait moi dans une situation qui était compliquée, mais en même temps au moment où je la vivais, je me disais mais ça... C'est un lavement, là, maintenant, tout de suite, mais ça va être désopilant à écrire.
Oui, c'est très drôle, mais c'est aussi terrible, parce que, vous dites, il faudrait que vous lui parlez, vous adressez à lui, vous dites, il faudrait que je t'explique l'inexplicable, que je m'extirpe des mots scientifiques pour nommer ce qui ne devrait pas avoir besoin de l'être. Mmh. Et il y a cette espèce de bonne volonté de sa part pour apprendre vraiment comment faire. Vous dites, mon Dieu, il était donc possible pour un homme, il était donc possible pour un homme de se trouver à 10 cm de cuisses écartées et de continuer à croire qu'il y avait une marche à suivre inamovible, une sorte de préchauffage dont la procédure ne changeait ni en fonction des jours, ni de l'humeur, ni de la compagnie, ni du désir. Et moi j'ai pensé, peut-être parce que j'étais en train de lire en parallèle le livre de Yvan Jablonka, mais il y a un chapitre sur l'égalité de genre et l'égalité de jouissance dans lequel il écrit « En fin de compte, tout rapport sexuel est équitable, devrait comporter une stimulation clitoridienne par masturbation, caresse ou clitoris. »
D'accord.
Il y a comme une sorte de, ça fait comme une sorte d'écho, on n'est pas dans le mode d'emploi, mais enfin, on est dans l'injonction morale.
Oui, et puis je veux dire, il y a plein de moments aussi où moi en tant que femme, j'ai pas forcément ce besoin de jouir. Enfin, j'ai pas envie que ça devienne laborieux, même pour moi. Il n'y a pas d'injonction. Moi, ce qui m'a vraiment, déchiré le cœur, en fait, avec ce français, c'est juste l'inappétence sensuelle, quoi. C'est le manque de sensualité, le manque de... Mais voilà, bon, c'est peut-être mon côté cruel. Moi, le manque de gourmandise d'un homme ou d'une femme me dépite toujours un peu. Et c'est vrai que là, je savais absolument pas comment bosser avec. Mais je trouve que voilà ce dont vous parlez du livre de Jablonka qui a plein d'égards d'ailleurs est très intéressant, mais voilà, que ce soit équitable une stimulation clitoridienne, est-ce qu'il faut faire un contrat pour ça? Le problème c'est juste la sensualité, quoi. Je pense qu'on l'a ou on l'a pas, peut-être que ça se travaille, mais c'est pas quelque chose qu'on peut écrire et signer, quoi.
Alors l'autre personnage sur lequel je m'arrête une seconde, c'est le personnage de Mark, qui est un Américain qui vient de Boston et qui est tout heureux d'être père. Il vient de sa femme vient d'accoucher. Il va au bordel, donc il vous rencontre là et il veut vous revoir chez vous.
Oui.
Et je ne sais plus pourquoi vous acceptez. Et là, c'est catastrophique, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il veut une vraie relation. Je voudrais qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître, qu'on parle de bouquins, de musique, qu'on fasse l'amour et qu'on parle de nos vies.
Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il arrive aussi. Enfin, je pense qu'il a très envie qu'on se connaisse, parce qu'effectivement, ce contexte de prostitution est intimidant pour les hommes. Personne. Aucun homme n'a envie de savoir que la fille est en train de bosser. C'est tout à fait compréhensible. Donc le fait de venir chez moi, je pense, lui paraissait plus facile, moins intimidant. En réalité, je ne cesse pas d'être une pute dans sa tête. Et quand il arrive chez moi, il se sent pas du tout à sa place. Il sait pas du tout comment réagir à ce contexte-là. Et moi, je voulais le voir dans un autre contexte que le boulot, parce qu'il ressemblait à un homme dont j'étais tombée désespérément amoureuse. Et je pense qu'il y avait une part de solitude immense chez moi, parce que je suis entrée au bordel un peu comme on entre au couvent, c'est-à-dire que je voulais vraiment faire mon expérience, ne pas avoir de relation à côté qui me parasiterait. Et donc, du coup, je savais pas du tout quoi faire de lui, parce que, hors du bordel, mes besoins sexuels étaient complètement éteints. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans cette espèce de quiproquo où lui, en fait, meurt d'envie d'une relation sexuelle. Moi, pas du tout. D'ailleurs, personne ne nous n'a de préservatif. Et ça se finit en une...
Oui, mais il veut une relation sexuelle, mais en même temps, il veut plus, sans vouloir plus. Il veut un rapport humain.
Il veut de la substance.
Et vous dites à un moment donné, c'est un des passages les plus durs du livre. Vous dites, j'aurais rêvé d'un jeune père, c'est-à-dire lui. J'aurais rêvé d'un jeune père qui m'aurait dit, après m'avoir prise comme un taulard en conditionnel, que son couple était un champ de ruines depuis la naissance de son enfant et qu'il ne fallait pas croire les conneries qu'on balançait aux autres pour garder la face. C'est splendide d'être papa, mais c'est une mère de sans nom aussi. Et même s'il aime son gosse plus que tout au monde, il ne fait plus l'amour avec sa femme et rien ne peut non plus remplacer cet amour-là. C'est-à-dire parce qu'il ne vous dit pas ça, parce qu'il est dans une sorte de mensonge enfin vis-à-vis de lui-même.
Oui, parce qu'il s'adresse en plus à une fille qui n'a pas encore d'enfant, quoi. Mmh. Et moi, j'écris aussi ce passage avec la perspective de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais enfin, ceci dit, voilà, je trouve que... Enfin, pour moi, ce passage est toujours juste, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de supériorité de l'homme établi, qui a sa femme, son enfant, et qui parle à une fille, qu'il considère un peu comme une fille perdue, pour lui expliquer qu'en fait, la rédemption, quelque part, vient de la maternité ou de la paternité. Mais derrière ça, on sent la fêlure, enfin, et le besoin terrible de proximité avec une femme, et le besoin d'exister en tant qu'homme sexuel aussi. Et je trouve, maintenant que j'ai un enfant, moi, quelque part, ce passage, je le trouve encore plus juste aussi. C'est qu'on ne peut pas taire son moi sexuel, pas en tant qu'homme et pas en tant que femme non plus. Et qu'il n'y a aucune supériorité du père sur l'homme seul ou de la mère sur la femme seule. Mais voilà, il y a toujours ce besoin de toucher l'autre. Down in your heart, you look cold. I hear your voice like music. Like gold, thy body so white, thy hair so black, thy mouth so red. Suffer.
La maison. Alors, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher quand même une certaine complaisance pour une certaine forme de sexualité qui est aujourd'hui battue en brèche par les féministes, par une certaine catégorie de féministes en tout cas. Par exemple, vous écrivez toujours quand vous vous adressez à cet homme qui voulait apprendre le cunnilingus, j'ai eu envie un instant de t'expliquer combien sont inestimables pour certains hommes les excentricités des jeunes filles de bonne famille qui ont envie de se faire peur. J'ai eu envie de t'expliquer à quel point ils perdent le sens commun lorsqu'ils bandent et qu'émerge la possibilité de confier cette turgescence au ventre nacré d'une étudiante qui ne leur serrerait pas la main dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'aujourd'hui tout le monde condamne comme des rapports de pouvoir ou des rapports de domination?
Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais enfin, la domination, elle ne se place pas où on l'attend forcément dans ce contexte-là. Moi, ce que j'ai constaté dans cette maison-là, mais qui était aussi une maison particulière, qui était entre guillemets bourgeoise, c'est-à-dire voilà, avec une clientèle d'habitués, d'hommes mariés, tout ça, que finalement, l'argent des hommes, c'est aux femmes que ça donnait un pouvoir. Et que finalement, c'était les femmes qui gouvernaient, enfin, dans ce contexte-là. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine prise de pouvoir dans le fait d'estimer que ce qui est considéré souvent par les hommes comme un service acquis, c'est-à-dire les hommes ont tendance souvent à se comporter en tant que clients. Il n'est pas très étonnant que les femmes considèrent ça acceptable de se faire payer pour ça. Je ne pense pas que ce soit anti-féministe, je pense que c'est une autre manière de féminisme. Mais, je pense qu'elle a son sens.
Mais vous abordez vous-même le problème de la violence. Il y a un client qui n'est pas nommé, enfin dont on ne connaît pas le nom, mais qui vous tabasse à un moment donné.
Qui essaye
en tout cas. Vous parlez d'une sorte d'animal sauvage affolé par le poids de ses propres serres, et vous dites que sa manière de prononcer le mot pute me mettait face à ma condition assez peu enviable puisqu'elle autorisait ce genre de rapport. Soudain, j'avais l'impression d'avoir écrit des pages et des pages de mensonges et cet homme arrivait pour rétablir la vérité.
Ben oui, mais je veux dire, j'ai écrit quand même à pas mal de reprises sur le ras-le-bol, sur la fatigue, sur l'écœurement, sur la violence qu'on ressent parfois. Vous savez, quand on est au contact quotidiennement d'une moyenne de 5 ou 6 hommes, il n'est pas étonnant que même quelqu'un comme moi qui a choisi cette expérience se dise « Mais putain, c'est dur, quoi !» Bien sûr qu'il y a des moments où on est remise face à sa condition de femme, enfin en tout cas face à sa condition de femme qui est là pour servir les hommes, évidemment. Ça aurait été complètement injuste, complètement naïf que d'écrire un livre. C'est pas le monde des bisounours non plus, quoi, je sais très bien. Mais ce que j'essayais de dire... c'est qu'il y a moyen de proposer aux femmes qui exercent ce métier des conditions décentes. Ça n'empêche pas, évidemment, de sentir un moment dans sa chair, peut-être l'injustice de la situation ou le ras-le-bol de la situation. Mais enfin, ça n'empêche pas d'offrir des conditions décentes. Chacune est libre de décider si oui ou non, pour elle, c'est quelque chose qui est faisable.
Par condition décente, vous voulez dire la réouverture des bordels, en fait.
Mais pas forcément la réouverture des bordels, parce que le bordel, ça convient à certaines femmes, pas du tout à d'autres. Je connais beaucoup de femmes qui n'ont pas du tout envie d'être enfermées dans un lieu avec d'autres prostituées, qui ont envie de faire ça de leur côté, dans des hôtels ou peu importe. Non, je dis que la légalisation est importante, parce qu'on ne peut absolument pas se pencher sur tout ce qui est problématique dans cette profession tant qu'on n'a pas légalisé, tant que c'est exactement le même problème qu'avec le cannabis par exemple. On ne peut pas légiférer si on n'a pas de prise légale sur le problème. Il ne faut pas rouvrir les maisons closes, c'est pas ce que je dis, il faut discuter sur la prostitution et voir se poser entre adultes avec des femmes qui exercent ce métier et réfléchir là-dessus, parce que sinon, on va droit dans le mur, et c'est d'ailleurs exactement là où on est depuis quand même un certain nombre d'années. La prostitution, elle est partout, et spécialement à Paris. Je veux dire, moi, à Paris, j'ai vécu des situations qui s'appelaient pas prostitution, mais je peux vous dire que ça s'en rapprochait quand même beaucoup, la manière dont les hommes, dans un certain milieu, une certaine classe sociale, considèrent que les femmes restent entre elles et que les hommes vont ensemble pour discuter, et les filles sont censées faire jolies. Et les filles sont là pour se faire promener de restaurant en restaurant, de boîte en boîte. Ça s'appelle de la prostitution. Mmh. Et c'est une forme de prostitution pour laquelle moi, j'ai absolument pas d'énergie à dépenser. J'ai pas envie d'être là pour décorer et faire joli pour des imbéciles bourrés de pognon. Je préfère passer une heure avec un homme pour une certaine somme d'argent et avoir le temps libre pour moi, et ma liberté.
Mmh. Mais il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le rapport à la prostitution que vous étudiez dans le livre, mais dans le livre, il y a aussi le rapport à une certaine forme de vous réintroduisez contre beaucoup de choses qui s'écrivent aujourd'hui, une certaine réflexion sur la sauvagerie dans le sexe quand même. Le personnage dont je parle, ce type là qui essaie de vous taper dessus, il fait apparaître une forme de pulsion violente qui peut exister.
Mais bien sûr, mais qui existe aussi en dehors du bordel.
Absolument.
C'est vrai que dans ce passage-là, la réflexion qui, moi, m'assaille, c'est est-ce qu'il faut dire à ce type « tu remets plus jamais les pieds ici ?» Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il va aller ailleurs. Donc, il va s'en prendre à une autre nana, à une nana qui peut-être n'aura pas mon âge ou ma force, entre guillemets, et qui va se laisser tabasser bravement, comme c'est le cas de la fille que je décris dans ce passage-là, et après laquelle je passe. Et surtout, s'il va pas au bordel pour dépenser ces espèces de pulsions violentes, sanguinaires, il va finir par s'en prendre à une toute jeune nana, puisque c'est ça qui le fait bander, les petites filles, enfin en tout cas les très jeunes filles. Et moi, je me souviens très bien d'avoir été une très jeune fille, et je sais à quel point on est flatté par l'attention des hommes plus vieux, et à quel point on a tendance à se laisser faire bravement, parce qu'on pense que c'est ça aussi le sexe entre adultes. Et c'est pour ça que je me pose la question de... est-ce que le bordel n'a pas vocation aussi à quelque part attendrir ou en tout cas amoindrir ce genre de violence.
Sécurité.
Mais peut-être aussi quelque part, oui.
Parce est-ce que c'est une soupape de sécurité ou est-ce que c'est un entraînement pour des choses plus dangereuses? Ça peut être les deux, non?
Je pense que tous les hommes n'ont pas envie d'aller au bordel. C'est quand même un contexte très particulier. On pourrait se poser la même question avec la violence et les jeux vidéo. Moi, je pense pas que ce soit relié, ou le porno et la violence dans le sexe. Je suis pas sûre que ce soit relié tant que ça. Moi, ce que je sais, c'est que il y a pas mal de jeunes hommes qui vont au bordel et qui dépensent au bordel leurs questions de jeunes hommes vierges, quoi, leur maladresse, et que peut-être au contact des prostituées qui ont une patience que les femmes du dehors n'ont pas par nécessité, peut-être que ces hommes-là font une certaine forme d'éducation et dépensent aussi la tentation de reproduire ce qu'ils voient dans le porno, qui est quand même une forme de sexualité très caricaturale, très fantasmatique, très violente, quoi.
Il me semble que votre livre, par rapport à beaucoup de choses qui s'écrivent, on est dans un moment en ce moment où on essaye de réguler un certain nombre de choses. Vous réintroduisez une réflexion au-delà de la prostitution. Il me semble que vous réintroduisez une réflexion sur ce que le sexe a d'anarchique.
Oui, en tout cas, c'est vrai, anarchique, j'ai jamais pensé à ce terme, j'avais plutôt tendance à dire apolitique. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que le sexe était vraiment le dernier bastion d'apolitisme qu'on a dans cette existence humaine, quoi. C'est-à-dire qu'il devrait pas y avoir de politique. Malheureusement, il se trouve qu'il y en a constamment et qu'on réfléchit beaucoup sur qui domine qui est soumis à qui dans le sexe. Moi, je trouve pas que l'égalité dans le sexe, ça me fait pas spécialement bander. Je dis pas qu'il faudrait que les femmes soient soumises ou que les hommes dominent forcément, mais ce que je trouve très bandant et très intéressant dans le sexe, c'est à quel point, d'une minute à l'autre, la personne qui avait les rênes, soudain les lâche, et qu'on puisse se réinventer constamment, et que les hommes puissent aussi assumer cette part de féminité dans le sexe, que les femmes aient droit à cette part de pouvoir, de masculinité, et que finalement tout le monde s'en foute. Je trouve que la porte de la chambre à coucher devrait rester fermée à toutes ces considérations hystérisées de domination et de soumission, quoi.
Pour finir, je voudrais vous demander de lire un passage du livre. Vous dites qu'une des choses qui vous a conduit finalement à cette réflexion sur le sexe et la prostitution, c'est une histoire d'amour que vous avez eue à 20 ans. Vous en parlez dans ce passage, je voudrais que vous le disiez, oui, pour finir.
Toute malheureuse, tout esselée que j'avais pu être avec cet amour, cette année de mes 20 ans avait été un âge d'or derrière lequel j'avais couru, depuis, inlassablement, désespérant de me sentir encore aussi vivante, aussi pleine du monde. Il ne m'avait jamais aimée en retour, et tous les hommes qui s'étaient donné cette peine m'avaient inspiré un amour moins dévastateur. Qui sait si je n'avais pas croisé son chemin ce que je serais devenue, diplomate, docteur, professeur émérite d'une université quelconque. Toutes ces choses que j'aurais pu faire, toutes celles que je n'aurais pas connues. Et cette évidence reste pour cet homme complètement opaque. J'imagine que son existence poursuit sa marche implacable, tandis que la mienne, dépourvue de la moindre organisation, a l'impulsivité d'une catastrophe environnementale impossible à endiguer.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Inès De Bruyne et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. To rise from the storm.